Vous écoutez, on lit pour vous.
Oxfam dénonce les pollutocrates du climat. Un texte d'Alexandre Shields paru le 9 janvier 2025 dans Le Devoir. Les personnes les plus riches de la planète ont déjà épuisé leur part du budget carbone annuel mondial pour l'année 2025, estime Oxfam dans un nouveau rapport. L'organisme déplore du même souffle l'impact du mode de vie des plus fortunés sur les plus démunis de la planète, qui sont frappés de plein fouet par les conséquences des dérèglements du climat. Afin de limiter le réchauffement climatique à un seuil viable, soit 1,5 degré centigrade par rapport à l'ère pré-industrielle, les émissions annuelles de gaz à effet de serre, GES, par habitant ne devraient pas dépasser 2 tonnes, selon les calculs des Nations Unies. Or, les personnes formant le 1% des plus riches de la planète, ce qui représente 77 millions d'individus, en incluant les milliardaires, les millionnaires et ceux qui gagnent plus de 140 000 $ US par an en termes de parité du pouvoir d'achat, PPA, émettent globalement l'équivalent de 76 tonnes de GES par année par personne. Cela signifie que leur budget carbone est épuisé en 10 jours, soit dès le 10 janvier, calcule Oxfam. Dans un rapport publié en octobre 2024, l'organisme concluait par ailleurs que 50 des milliardaires les plus riches du monde produisent plus de GES en 90 minutes qu'une personne normale ne le fait pendant toute sa vie. Le document indique notamment qu'Elon Musk posséderait 2 jets privés qui produisent ensemble 5 497 tonnes de GES par an. Dégradation du climat. À l'inverse, les 50% des personnes les plus pauvres, 3,9 milliards de personnes ayant un revenu annuel moyen de 2000 $ US en termes de PPA, ont besoin de près de 3 ans pour épuiser un budget carbone de 2 tonnes, évalue Oxfam. Cette date du 10 janvier, qu'Oxfam a surnommée la journée des pollutocrates, démontre l'ampleur de la responsabilité des super-riches dans la dégradation du climat, selon l'organisme, qui calcule que, pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré centigrade, les super-riches devraient réduire leurs émissions de 97% d'ici à 2030. Pour le moment, les émissions des mieux nantis contribuent significativement à épuiser ce qui nous reste collectivement comme budget carbone, pour éviter de conduire la planète vers un naufrage climatique, affirme Julie McClatchy, analyste politique et spécialiste des inégalités économiques et climatiques à Oxfam, Québec. Si chaque personne commençait à émettre autant de carbone que les 1% les plus riches, le budget carbone restant serait épuisé en moins de 5 mois, souligne-t-elle. Il est impossible d'éviter un effondrement climatique sans réduire la concentration excessive des richesses parmi une élite restreinte, ajoute Mme McClatchy. Les gouvernements doivent cesser de se plier aux exigences des plus riches. Les riches pollueurs doivent payer pour les ravages qu'ils causent à notre planète. Taxez-les, limitez leurs émissions et interdisez leurs excès, souligne pour sa part Nafkote Dabi, responsable de la politique sur le changement climatique d'Oxfam International. L'organisme presse donc les gouvernements d'interdire ou de taxer de manière punitive les consommations de luxe à forte intensité de carbone, à commencer par les jets privés et les super-yachts. On plaide aussi pour l'imposition de réglementations aux entreprises et aux investisseurs pour qu'ils réduisent leurs émissions de façon considérable et équitable. Financement urgent. Ces demandes d'Oxfam surviennent alors que les besoins en financement climatique dans le monde sont de plus en plus importants pour les pays en développement, afin qu'ils puissent réduire leurs émissions de GES et s'adapter aux impacts de la crise climatique. Dans le cadre de la plus récente conférence climatique mondiale, COP29, les pays développés ont promis de fournir au moins 300 milliards de dollars par an d'ici 2035, une hausse marquée par rapport aux 100 milliards de dollars actuels. Et cette nouvelle somme doit servir de levier pour atteindre une enveloppe de 1300 milliards de dollars par année. Une somme en apparence élevée, mais qui correspond aux besoins financiers identifiés par des experts mandatés par l'ONU. Les experts de la science climatique préviennent que le seuil de réchauffement de 1,5 degré centigrade risque d'être dépassé irrémédiablement d'ici 10 ans. Et selon une enquête publiée en 2024 par le réputé quotidien britannique The Guardian, les auteurs et collaborateurs qui ont contribué au plus récent rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, préviennent que le réchauffement dépassera les 2,5 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle. Cela signifie que l'humanité ferait face à un recul de l'espérance de vie et à un recul de la qualité de vie dans plusieurs régions de la planète, selon le GIEC. Le regroupement scientifique met aussi en garde contre une hausse majeure des prix des aliments, des conflits et des migrations climatiques, sans oublier une dégradation généralisée d'écosystèmes cruciaux comme les récifs de corail et les forêts tropicales. C'était « Oxfam dénonce les pollutocrates du climat », un texte d'Alexandre Shields paru le 9 janvier 2025 dans Le Devoir.
Les applications de rencontres ne sont pas aussi subversives que vous le croyez. Un texte de Sylvia Galipo, paru le 30 janvier 2025 dans La Presse. Antisociales, dévastatrices, violentes, à l'origine de la mort du romantisme, Tinder, Bumble et toutes les autres? Peut-être bien moins que vous le pensez. Le point avec Maud Lecomte, titulaire d'un doctorat en sexologie, qui publie ces jours-ci un livre sur le sujet, confrontant la science au discours populaire, « Les applications de rencontre, révolution, lieu de perdition ou simple gadget » aux presses de l'Université du Québec. Voici 10 idées reçues, revues et nuancées. Les applications de rencontres, tout le monde le sait, ne visent essentiellement que les rencontres sexuelles. Faux. Ce n'est pas exclu qu'elles soient utilisées pour des rencontres sexuelles, mais dans la majorité des études, les gens rapportent ultimement utiliser les applications pour rechercher des relations amoureuses à long terme, répond la chercheuse et autrice. Et c'est paradoxal, car on accuse les applications de mener à des rencontres exclusivement sexuelles, mais les données montrent que très souvent, les interactions ne mènent tout simplement à rien. 2. Tout est basé exclusivement sur l'apparence. Vrai et faux. Il est vrai que les applications sont des environnements très visuels comparativement aux sites de rencontres qui étaient très textuels. Là, l'écrit est très marginal. C'est certainement l'image qui est le critère premier. Un choix qui se ferait en seulement 11 secondes selon les études. Sauf qu'ensuite interviennent beaucoup d'autres caractéristiques et la liste des critères va en s'allongeant parce que les gens déduisent ce que vous faites dans la vie, vos intérêts, etc., à partir de cette même photo. Un profil avec une photo de vous dans le sud, un iguane à l'épaule, n'attirera pas le même public qu'un portrait en randonnée en Islande. Alors, s'il y a mensonge, est-ce sur ce qui est annoncé ou sur ce qu'on en déduit? 3. Les faux profils sont un vrai fléau. Faux. C'est sûr qu'il y en a. Certains visent les arnaques amoureuses, d'autres font la promotion de sites porno, mais la grande majorité des profils appartiennent à de vraies personnes. 4. Parlant de fléaux, la fantomisation, ghosting, a des effets dévastateurs. Vrai, mais C'est effectivement un fléau, mais dévastateur. Peut-être moins qu'on pense, et c'est documenté. Car les gens y sont préparés, ils s'y attendent, et ça n'a peut-être pas d'effet si dévastateur à long terme. C'est plutôt quand il y a répétition de la chose que là, oui, il peut y avoir un effet sur la santé mentale. 5. Les applications ont signé l'arrêt de mort du romantisme. Faux. Complètement faux. Oui, il y a une forme de consommation, et les gens là-dessus le disent, cela fait partie des critiques qu'ils formulent à l'endroit de l'objet, mais fondamentalement, on est romantique. Les études le disent, les Canadiens se disent de modérément à très romantique. Le romantisme occupe une place de choix malgré ce qu'on peut penser. 6. Les déceptions amoureuses sont nettement plus fréquentes en ligne. Vrai, mais effectivement, un des gros risques, c'est d'être déçu, mais c'est un risque en personne aussi. 7. Qui dit application de rencontre dit comportement compulsif. Faux. Il est faux de penser que tous ceux qui utilisent les applications de façon soutenue sont des compulsifs. La compulsion implique plus que le fait d'ouvrir fréquemment ces applications. Pour tirer profit des outils, il est même nécessaire d'y être de façon soutenue. Certes, c'est documenté, certaines fonctions peuvent encourager une forme de compulsion, mais les personnes qui en développent avaient des prédispositions. Je dirais qu'il faut se modérer, mais la plupart des gens n'ont pas de compulsion à proprement parler. 8. Gare à la violence en ligne. Vrai, mais c'est vrai. Et il faut toujours faire attention à la violence. Mais est-ce qu'il y en a plus en ligne que hors ligne? Pas nécessairement. Oui, on rapporte de la haine en ligne. Il n'est pas non plus exclu de croiser des personnes mal intentionnées, mais il n'y a rien qui démontre que la violence en ligne est supérieure à la violence dans d'autres circonstances. Certaines personnes ont des expériences traumatiques, mais on croise aussi ici beaucoup plus de monde, donc on a aussi proportionnellement plus de chances de croiser des personnes mal intentionnées. 9. Les utilisateurs de Tinder et compagnie sont plus enclins à contracter des ITSS. Faux. Cela faisait partie des inquiétudes quand les applications sont apparues. Cela peut arriver, mais pas nécessairement. Cela dépend du nombre de partenaires. Ce n'est pas l'application, mais plutôt le comportement qui est garant de ce qui arrivera ensuite. Rappelons ici que la plupart des échanges ne mènent d'ailleurs à rien, qu'on parle de rencontres planifiées. Donc, on a plus de temps pour se préparer à cause de leur réputation. Les gens sont parfois plus méfiants. Bref, dans certains cas, les applications pourraient même avoir un effet protecteur en matière d'ITSS. 10. En résumé, tout a changé depuis l'arrivée des applications de rencontres. Faux. Pour l'instant, en ligne, il y a la même discrimination que dans la société en général. On n'y a pas modifié les rôles de genre et l'on continue de chercher l'amour avec un grand A. C'est une prolongation de ce qu'on est. Rien de bien subversif ou de révolutionnaire, je dirais. C'était « Les applications de rencontre ne sont pas aussi subversives que vous le croyez », un texte de Sylvia Galipo, paru le 30 janvier 2025 dans La Presse.
L'énigme de la joie. Un texte d'Émilie Bibeau, paru le 3 mars 2024 dans La Presse. C'est difficile pour elle. La joie, ça ne dure pas longtemps et ça devient vite de la culpabilité. En tout cas, c'est compliqué. Ces paroles d'un ami qui me parlait récemment d'une personne qui lui est chère ont résonné longtemps en moi. C'était confrontant de réaliser que j'avais une vision simpliste ou, disons, limitée de la joie et que je la voyais simplement comme une émotion naturelle, innée, plutôt que quelque chose qui peut être également difficile ou confrontant. Cette conversation m'a rappelé cette soirée d'octobre dernier où je suis tombé sur l'émission « Tout le monde en parle » au moment où l'auteur passionnant, Kevin Lambert, donnait une entrevue peu de temps après avoir remporté le prix Médicis. Devant la longue liste de nominations et de prix auxquels son dernier roman était associé, on lui a demandé en fin d'entrevue comment il se sentait face à cette avalanche d'appréciation et il a répondu tout simplement « Pour citer Louise Dupré, c'est un exercice de joie. J'essaie d'apprendre à vivre la joie. On ne nous apprend pas ça nécessairement. » J'avoue que cette réponse m'avait à la fois réjoui et intrigué. Réjoui parce qu'inattendu, intrigué parce que complexe. Quel est réellement notre rapport à la joie? Est-ce que vivre la joie, ça s'apprend? Charles Pépin, philosophe vulgarisateur et essayiste optimiste que j'affectionne particulièrement, affirme en entrevue avec son éditeur chez Folio qu'il est d'abord important de distinguer joie et bonheur. Le bonheur est un état de sérénité durable, d'équilibre serein. La joie est beaucoup plus folle et moins durable. Elle est un jaillissement. Le bonheur est incompatible avec la souffrance, la violence ou l'absurdité du monde. La joie, elle, reste possible même quand le bonheur ne l'est plus. Chaque seconde de joie nous rappelle que le bonheur est possible. Il affirme donc que le bonheur peut être rare, mais pas la joie, ce qui fait d'elle un élément assurément salutaire dans ce vaste parcours humain que nous traversons tous. Une marche au premier soleil du printemps qui réchauffe la peau et nous ravit. Un apéro entre amis où autant les discussions que les chips sont délicieuses. Écouter la finale de Succession. Une victoire du Canadien quand on n'y croyait plus. Un texto qui dit « Je t'aime ». Un appel téléphonique de l'agence qui t'annonce que tu as été choisi pour un rôle. Il fait aussi référence au philosophe Henri Bergson qui parle de la joie comme d'un élan vital qui nous traverse. Un élan vital qui nous traverse, je trouve ça franchement magnifique comme définition. Il nous explique que le lierre qui grimpe est créatif pour contourner les obstacles, que le chien jappe pour attirer l'attention, et que l'être humain, lui, sera tout aussi créatif pour traverser les embûches. Mais à la différence des plantes et des animaux, l'être humain est créatif de plusieurs manières, ce qui donne, par exemple, un Van Gogh qui peint la nuit étoilée, un Richard Desjardins qui chante « Tu m'aimes-tu », une Pina Bausch qui danse le sacre du printemps, etc. Et que cet élan vital nous donne l'art, une grande source de joie autant pour le créateur que le spectateur. Il n'en demeure pas moins que la joie, il faut savoir l'accueillir, et là se trouve la démarche. On vous a déjà dit, ben voyons, souris, prends du soleil, va marcher, puis tout va se régler. Les philosophes ont tendance à contester cette sorte de psychopop qui évite d'aborder la complexité de la vie et n'est pas de si bons conseils finalement, car les choses sont plus compliquées que « mets-toi un sourire dans le visage et ça va bien aller ». Et nier cette complexité permet difficilement de connecter avec la joie. Et puis, on ne peut pas éternellement être dans la gratitude chaque seconde de notre vie et se dire que la joie est nécessairement un choix qu'on fait. La question est beaucoup plus délicate et nuancée. La solution privilégiée, prôner une joie lucide où je sais que la vie est tough, mais que je choisis de m'y dévouer entièrement quand même parce que la vie est belle, mais aussi difficile, souvent ardue, et que, voulez-vous, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas exiger de la vie qu'elle soit parfaite ou attendre qu'elle le soit pour que notre joie existe. Dans cette époque particulièrement sombre et anxiogène, rempli de turbulences et d'incertitudes, la joie devient presque un outil de résistance, un service essentiel en quelque sorte. Oui, je crois qu'il faut s'exercer à la joie, pour ce qu'elle est, sans attente du résultat et sans trop regarder ailleurs, me disait une amie quand je lui confiais ma réflexion. Parce que oui, Trop regarder ailleurs sera toujours un piège souffrant. Instagram ou tout autre réseau social nous l'enseigne chaque jour et c'est un grand obstacle à notre joie, car la réalité perd toujours contre l'idéal, comme le dit justement Charles Pépin. Plutôt se connecter à ce qui est là, tout simplement. Se connecter à nos minuscules joies quotidiennes et aussi à nos grands élans collectifs, sans jugement et sans peur. Comme ce soir du 17 juillet 2023 sur les plaines d'Abraham, où 90 000 personnes ont vibré de cette joie collective immense, émouvante, plus grande que nature et plus grande que tous ceux qui s'étaient rassemblés pour le concert historique des Cowboys fringants et qui ont chanté d'une seule voix avec Carl Tremblay « Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seul au monde. » Qu'on soit fan ou pas de ces grands rassemblements, on ne peut rester insensible à cet élan vital qui en a traversé plus d'un ce soir-là. Bref, une réflexion et peut-être une réponse possible à l'énigme de la joie. Consentir à la vie comme elle est, parce que la joie est dans la réalité, affirme Pépin. Voilà mon nouveau mantra. Puisqu'après tout, la réalité est tout ce que la vie nous offre. C'était « L'énigme de la joie », un texte d'Émilie Bibeau, paru le 3 mars 2024 dans la presse.
Sam Cyr, vivre avec ses complexes et ceux des autres. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 26 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Donner le titre « Sam Cyr décomplexé » à cet article aurait été trop cliché. Et pourtant, l'humoriste Sam Cyr, connu pour « Tout le monde saillit », un balado qu'il co-anime avec Marilyn Gendron et qui explore les complexes de leur invité, semble réellement à l'aise dans ses projets et ses positions, lui qui discute bien souvent de ses questionnements dans son contenu. Le duo du balado sera dans les prochains mois sur scène pour présenter « Séparés mais ensemble », où ils feront chacun 45 minutes de stand-up. Entrevue. Les hommes LGBTQ+, semblent occuper une bonne proportion des hommes invités à votre balado. Y a-t-il une raison pour ça? Pensez-vous qu'ils ont plus de choses à partager? Je pense que Marilyn et moi, à la base, on a toujours eu un souci d'avoir des invités diversifiés. Mais, veux pas, on est souvent plus stimulé par des discussions avec des femmes ou avec des personnes queer. On dirait que les dossiers nous intéressent plus avec ces personnes-là. Sans vouloir dire que les hommes hétéros n'ont pas de complexe. Au contraire, ils en ont, et certains nous le prouvent en passant à notre podcast. Mais on a instinctivement une envie de mettre la lumière sur les complexes des personnes qui, à la base, peuvent être plus marginalisées. Moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager avec une personne de la communauté LGBT. C'est des discours qu'on entend moins, donc c'est sûr que pour moi c'est une ambition de faire porte-voix à ces discours-là. D'ailleurs, il n'y a pas de fin annoncée au balado, n'est-ce pas? On dirait qu'à chaque année, on renouvelle notre vision de ce « serait quand la fin ». On dirait qu'à chaque année, je vois la fin toujours de plus en plus loin. Le gros facteur qui fait en sorte que je ne sais plus c'est quand qu'on le finira, notre balado, c'est que le milieu et le médium du balado, il n'arrête pas d'évoluer. Les nouveaux balados, c'est genre des plateaux de télé. J'ai l'impression que le milieu du balado pourrait évoluer pour se modeler à mes objectifs de carrière d'année en année. J'ai l'impression que ça pourrait ne jamais arrêter, mais je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment, on va vouloir changer de sujet. As-tu peur d'être trop associé à Marilyn? De ne plus pouvoir te présenter comme humoriste sans elle? J'imagine que vous vous en êtes parlé. On en parle souvent un peu. C'est une crainte, mais une excitation aussi de voir ça va être quoi l'autre bord de ce projet-là. C'est le fun de travailler en équipe, mais je pense qu'à la base, je suis un loup solitaire. Après ça, c'est sûr qu'on va toujours être associés, moi et Marilyn. On ne va pas arrêter de travailler ensemble. Je pense qu'on va toujours avoir des projets en duo, mais que graduellement, on va pouvoir aller explorer ce qu'il y a à aller chercher en solo. Comment te décrirais-tu comme humoriste? Je me suis toujours décrit comme un petit chat grognon, mais inoffensif. Mais je ne sais plus si ça me correspond entièrement, parce que je me trouve de moins en moins grognon. Ça fait encore partie de ma personnalité, mais je ne trouve plus enfantin. Je suis très bébé. Je suis le petit frère à la grande sœur qu'est Marilyn, admettons. J'aurais espoir que, à travers les années, je pourrais devenir plus un adulte. Je ne trouve pas ça sexy d'être un petit chat petit frère. J'aurais l'ambition de grandir et de devenir plus comme un tigre. Sur mon show de scène, je me demande tout le temps « Ah, mais là, c'est-tu assez sérieux? C'est-tu trop bébé? Y a-tu trop de jokes pipi caca pénis? Est-ce que je devrais faire un effort pour avoir un discours qui fait plus réfléchir? » Mais, à la base, mon témoignage en tant que jeune homme de région ayant vécu une homosexualité refoulée dans les années 2000, c'est encore un discours qui est pertinent, surtout dans l'offre humoristique qu'on a au Québec. On n'est vraiment pas beaucoup. Des fois, je me rends compte qu'au Québec, le premier humoriste homosexuel, c'était Alex Perron ou Danny Turcotte. Il n'y en a pas eu des tonnes d'autres. Je suis au moins dans les 10 premiers, je pense. Y a-t-il des humoristes ou des personnalités queer qui t'inspirent? On dirait que je vais chercher mon inspiration de traits de personnalité plus que de me dire « Oh, cet humoriste-là, j'aime comment il écrit, je m'inspire de lui ». J'écoute beaucoup Drag Race, bien entendu, et j'aime beaucoup la carrière de Trixie Mattel. J'admire beaucoup la quantité de travail qu'elle accomplit, sa spontanéité. Je trouve qu'elle est vraiment forte pour improviser. En podcast, elle me fait beaucoup rire aussi. J'écoutais un extrait de son podcast et elle parlait de faire des auditions par vidéo. Elle disait qu'elle ne faisait pas plus que 2 ou 3 takes avant d'envoyer ça, et elle disait « Don't be precious with your shit ». Puis moi, je suis vraiment le genre de personne qui est super precious with your shit. Je vais prendre comme 1 heure et demie à relire une publication avant de peser sur Send, et je veux que tout soit parfait. Dans des petits moments comme ça, on dirait que ça peut m'aider de m'inspirer de personnes qui sont assez différentes de moi et que je voudrais devenir comme elles. C'était Sam Cyr, vivre avec ses complexes et ceux des autres. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 26 janvier 2025 dans le magazine Fugue.